Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être présents à ce café littéraire. Chaque année, on se retrouve comme ça autour de 3 ou 4 auteurs que j'ai repérés, que parfois mes collaborateurs ont repérés et m'ont signalé en cours d'année, que j'ai lus ou commencé parfois lorsque la masse des livres me submerge. Et ce sont donc des auteurs qui me paraissent intéressants parce que ces premiers romans m'ont parlé, parlent à d'autres spécialistes et critiques, et on l'espère en tout cas, vont parler aux lecteurs. Donc c'est une façon de faire découvrir chaque année, d'abord dans le papier que j'avais déjà consacré, puisque évidemment ils sont parus il y a quelques mois, à 3 de ces auteurs-là, plus un quatrième qui s'est glissé et nous a aujourd'hui accompagnés, que j'ai trouvé aussi intéressant, même si j'ai découvert le livre un peu plus tardivement. On a donc 4 auteurs qui représentent chacun à leur façon des auteurs de premier roman. Alors vous voyez bien que auteur de premier roman ne veut pas nécessairement dire jeune auteur, qu'on peut écrire un premier roman à tout âge, et que néanmoins on est un nouveau talent quand on réussit son coup, surtout quand on a beaucoup critiqué, chroniqué, salué, primé les autres, puisque Jacques Baudou, à tout seigneur, tout honneur, vous allez commencer cette petite discussion. Jacques Baudou donc est ancien critique littéraire au journal Le Monde, où il a beaucoup défendu, ça n'était pas toujours une sinécure, l'imaginaire. Jacques Baudou a écrit 2 essais, entre autres, hein, plein d'autres, mais des essais très accessibles, je le dis, pour ceux qui découvrent encore les genres chez Que sais-je. Je ne sais pas s'ils sont tous les deux encore disponibles, mais en tout cas, oui, on me dit, sur la science-fiction et la fantasy. Et puis de nombreux ouvrages, là on voit un Dico Sherlock Holmes par exemple, même si c'est un peu éloigné de l'imaginaire, mais pas tant que ça finalement. Parfois le polar flirte, surtout dans le cas de Sherlock Holmes, avec le fantastique. Et puis beaucoup de critiques, beaucoup de chroniques, et évidemment Jacques Baudou a été vice-président des années durant du jury du prix Imaginal, et enfin il a été un de nos modérateurs, et cette fois-ci il passe de l'autre côté du miroir, sous les feux de la rampe, puisqu'après avoir dirigé des collections et donc fait beaucoup de choses, il a son démon l'a travaillé et il s'est lancé dans l'écriture d'un premier roman sur lequel je m'interroge en me demandant si les premières pages ne sont pas légèrement autobiographiques. Tout petit extrait. Le crépitement soudain et brutal de l'orage sur les tuiles de la maison forestière l'extirpa d'un coup de sa rêverie. Dans la machine à écrire posée sur la petite table qui lui servait de bureau, la feuille blanche était restée rigoureusement vierge. Il n'avait pas tapé un seul mot, pas même une lettre. Alors, 2 questions, Jacques. Premièrement, vous en êtes toujours à la machine à écrire. Question. Et deuxièmement, plus sérieusement, est-ce que derrière ce début de roman, vous n'évoquez pas tout simplement l'angoisse de l'écrivain face à la page blanche ?
Absolument pas. D'abord, la machine à écrire, dans une maison forestière, pas d'électricité, hein. Donc même si c'était mis à l'ordinateur, il n'aurait pas pu s'en servir véritablement pendant plusieurs mois dans une maison forestière. Donc la dernière ressource, c'est la machine à écrire, et moi j'ai commencé à taper sur des machines à écrire avant de taper sur des ordinateurs. Et non, c'est absolument pas autobiographique. Il y a quelques petites choses autobiographiques dans le roman, mais pas ça du tout. Non, j'ai jamais eu l'angoisse de la feuille blanche. J'ai commencé quand j'étais en exercice plusieurs romans pendant les vacances, et puis arrivé le mois de septembre, je retrouverai mon poste d'animateur culturel dans une maison de la culture, et il n'était plus question de passer du temps sur un roman. Donc maintenant je suis à la retraite, ce qui explique mes cheveux blancs et gris, et j'ai eu du temps. En plus, j'ai eu un petit problème de santé qui m'a obligé en quelque sorte à m'installer pour écrire véritablement un roman. J'avais un ami auteur de polar qui me disait le problème, c'est pas de commencer les romans, c'est de terminer le premier. Et voilà, donc j'ai terminé un premier roman.
Là aussi, un peut, avec le profil que vous avez, la carrière que vous avez, Jacques, on a l'impression quand même, là on sait que c'est pas autobiographique, mais qu'il y a quand même un regard parfois amusé sur le monde de l'édition, petit extrait. Cela ne fait rien, je suis arrivé à destination, c'est vous que je venais voir. Un silence. Il l'observa, affrontant le regard de ses yeux clairs et francs. Comment m'avez-vous trouvé? Comment vous êtes-vous procuré mon adresse? Un sourire fugace éclaira la bouche de la jeune femme. Rassurez-vous, personne chez votre éditeur n'a cru bon de révéler l'endroit de votre retraite. D'autant que, n'étant pas journaliste, notre entrevue n'aurait donné lieu à aucun article, aucune divulgation publique qui aurait pu être d'un profit quelconque. Non, j'ai bien sûr sollicité d'abord le service de presse, mais pour m'entendre dire que vous étiez en pleine période de création et qu'il importait de ne pas déranger le grand écrivain, avec les guillemets. Est-ce que c'est aussi un regard un peu ironique, amusé sur l'écriture, ces pages, sur le monde de l'édition parisienne?
Non, ça c'est de la pure invention personnelle, mais parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai demandé à une attachée de presse d'interviewer un auteur, ça s'est fait, mais parce que c'était pas le nom de Jacques Baudou qui s'impressionnait, c'était le nom du Monde et qui avait un article à la clé. Donc ça semble assez logique que les attachés de presse ou que les éditeurs essaient de protéger un petit peu les auteurs. Si vous avez lu dans le temps un roman policier qui s'appelle Le Fan, qui est un roman d'horreur, il peut nous arriver des aventures très dangereuses aux auteurs.
Stephen King manquait de se retrouver confronté à un assassin, c'est vrai. Extrait, cette fois-ci, on est un peu plus dans le vif du roman. Les fantômes, je les ai vus. Où ça? Quand? Interrogea-t-elle, visiblement interloquée. Je suis arrivé ici, il y a un peu plus d'un an, à la fin du printemps. J'avais un roman à terminer dont mon éditeur attendait le manuscrit pour le publier à la rentrée. Il était déjà bien entamé, mais disons que je manquais d'enthousiasme et d'allant pour le finir. Je m'ennuyais à l'écrire. Dans les premiers temps de mon séjour, j'ai exploré les alentours de la maison forestière, poussant mes expéditions de plus en plus loin dans les profondeurs des bois qui l'entourent de tous côtés. J'ai toujours aimé les forêts, toujours considéré que c'était des lieux magiques. C'est ainsi que je les ai rencontrés l'un après l'autre. D'abord, j'ai vu l'homme à la cagoule kaki, celui que vous appelez l'homme au passe-montagne. Au plus profond, dans un endroit sauvage bardé de ronces et d'épineux, ce n'était d'abord qu'une silhouette floue, engoncée dans une capote militaire, se tenant au milieu d'une clairière. Puis l'image s'est dissipée, alors que je m'en rapprochais. J'ai cru avoir rêvé, mais c'était bien une apparition. Je l'ai revu plusieurs fois, toujours à l'endroit exact où je l'avais vu la première fois, toujours immobile, les mains enfoncées dans les poches de sa capote. Et toujours cette image m'a fait éprouver, je ne sais pourquoi, peut-être quelque chose dans la posture de l'homme, un sentiment de profonde tristesse. Le visage était entièrement dissimulé par une cagoule qui ne laissait voir qu'un regard, un regard hanté, comme je l'ai qualifié dans mon roman. Vous avez toujours eu une passion pour les bois, Jacques Baudou, ou est-ce que c'est une référence, par exemple, à l'univers d'un écrivain qu'il me semble que vous avez beaucoup admiré, Robert Holstock?
Oui, alors les deux, mon général. D'abord, c'est vrai que Robert Holstock et le cycle des Mitago est quelque chose qui m'a vivement impressionné dans ma carrière de critique. Je suis tombé amoureux de deux ouvrages, Les Mitago de Holstock et puis Le Pays du Fou Rire de Jonathan Carroll. Mais c'est aussi, je fréquente la forêt depuis très longtemps, parce que j'habite pas très loin d'une forêt, que c'est un endroit que j'explore très assidûment, et j'ai à chaque fois des excuses. Il faut aller ramasser des brins de muguet, il faut aller cueillir des mûres, il faut aller herboriser, trouver des orchidées. Donc c'est un endroit assez fascinant. En plus, là où j'habite, la forêt était située, j'habite près de Reims, et la forêt était située sur la ligne de front française attaquée par les Allemands, et donc c'est aussi une forêt chargée d'histoire. Voilà, donc on trouve des tranchées, on trouve des blocos, et la mémoire fait ressurgir des fantômes.
Tout à fait un autre univers avec vous, pour La Voix de l'Empereur, Nabil Ouali. C'est le premier roman d'une trilogie. Donc voilà, quand on se lance dans un premier roman et qu'on en a deux autres derrière, on se dit quelle ambition. En tout cas, le premier roman m'a suffisamment intéressé pour que vous soyez présents sur cette tribune. Alors on va commencer là aussi par entrer dans le livre. On va choisir les premiers moments du livre. Prologue. Ils étaient trois enfants aux talents bien distincts, dont l'histoire commence un hiver incertain. Par le feu, sous les neiges ou de sombres terreurs, des hommes fous, ils devaient réparer les erreurs. La matinée était déjà bien avancée lorsqu'ils arrivèrent au col. Autour d'eux s'élevaient des cimes blanches et acérées, semblables aux fossiles altérés de quelque immense gueule émergeant des tréfonds de la terre. Chaque sommet s'enfonçait dans le ciel comme autant de crocs millénaires. Un détachement de 50 soldats marchait sur l'herbe givrée, tous vêtus d'armures et d'épaisses fourrures. Leur plastron arborait un blason au reflet étincelant. Un soleil d'or sertit d'épées victorieuses. C'étaient des vétérans, des hommes qui avaient combattu ensemble sur tous les terrains et sous tous les climats, et que la discipline avait forgé aussi rudement que les lames qu'ils saignaient à leur taille. Ils avaient l'expérience du sang, de la ruine et du fer. Le gros de la compagnie était resté au camp, avec les deux diplomates qu'ils escortaient à travers l'Empire. Le capitaine avait refusé de s'en tenir au trajet convenu, estimant nécessaire de se rendre au point d'impact. Le détour pouvait allonger le voyage d'une semaine, mais les diplomates refusaient d'assumer un tel retard. Comme à l'accoutumée, tout avait été prévu pour que la compagnie atteigne la cité de pierre, bastion des seigneurs du Nord, précisément le jour décidé par l'empereur. L'Orgéam, qui commandait cette armée singulière, s'était contenté de répondre qu'il jugeait dangereux de passer son chemin sans étudier en détail ce qui pourrait menacer la sécurité des routes du sel. Alors voilà, on est parti, on est dans un univers des soldats, le type d'armement nous montre qu'on est dans une époque où, de type moyenâgeuse, on va dire. Bref, on est clairement dans un roman de fantasy épique. Pourquoi ce choix, Nabil Ouali, de la fantasy épique ?
Tolkien. Non, très simplement, c'est vrai que je pense que j'ai... Comment dire ? Tolkien a eu un énorme impact sur moi. En fait, je l'ai découvert assez tard. Et je n'ai pas arrêté depuis de m'y replonger, en fait. De le manger, de le remanger, de le bouffer, de... Oh là, un peu maladroit. Et je voulais absolument que mon premier roman soit un roman de fantasy, d'abord parce que je pensais que la fantasy était un moyen assez, à la fois agréable et un peu inattendu pour traiter des questions qui, moi, me plaisaient plus, mais que j'avais pas forcément, qui n'étaient pas forcément liées à l'univers de la fantasy, ou du moins à la culture de la fantasy. Donc je voulais que la fantasy soit le décor dans lequel je pourrais faire ce que moi, il me plaisait.
Monsieur Del Socorro, avec vous, on est vraiment dans un tout autre univers. Alors, là aussi, on va essayer d'y pénétrer au travers d'un petit extrait. Silas. Bourreau, je peux tout expliquer. Je sais, les faits ne sont pas en ma faveur, mais prenons le temps d'en discuter, veux-tu ? Je n'avais jamais eu l'occasion de visiter les dépendances de la Ligue catholique. Il faut dire qu'elles ressemblent davantage à des places fortes qu'à des lieux de prière. Leur sous-sol confirme mon impression. Nous avons franchi pas moins de deux herses et trois lourdes portes pour arriver dans cette cave. La chaise sur laquelle tu m'as enchaîné, certes robuste, reste très inconfortable. En tant qu'invité, tu ne m'as pas proposé de vin, ni même un verre d'eau. Je croyais la ligue un peu plus accueillante. Moi, c'est Silas. Je dois te l'avouer, bourreau, tu es mon idole. C'est bien simple. Quand je sens l'odeur d'un infidèle qui brûle, je pense à toi. Avec quel talent tu leur brises les doigts et les rotules pendant les procès publics. Avec quelle classe tu mets le feu au bûcher sous les vivats de la foule. Pour avoir un geste aussi souple et maîtrisé, vous devez avoir une formation particulière chez les bourreaux. Ce n'est pas possible autrement. C'est vrai que tu as aussi beaucoup pratiqué. Tu en es à combien d'exécutions ? 50 ? 100 ? Tu ne sais plus, ce n'est pas grave. Moi aussi j'ai perdu le compte. Tu sais qu'Henri IV s'est finalement converti à la Sainte Église catholique ? Le pape Clément VIII a du coup levé l'excommunication qui frappait notre bon roi. J'ai entendu dire qu'il avait également levé celle qui frappait les harbonniers. Il accueillerait même désormais à bras ouverts tous ceux qui se convertiraient. Entre nous, l'Église comptait déjà quelques-uns de ses jeteurs de sœurs dans ses rangs. Bientôt tu verras, tu ne brûleras plus les sorciers, bourreau, tu les recruteras. C'est ça le progrès. Ça doit te faire quelque chose quand même. Bon, je suis sûr que tu trouveras bien quelques cathares qui ont survécu ou une nouvelle croisade en Terre Sainte pour occuper tes vieux jours. Maintenant qu'Henri IV a repris Paris à la Ligue catholique, il n'y a plus guère que Marseille qui lui résiste encore. Voilà, le décor est posé. Royaume de vent et de colère, votre premier roman, Jean-Laurent Del Socorro. On est à la fin du XVIe siècle, 1596. On est aussi à une période en fait très peu connue de l'histoire de France. On est à une période où Marseille résiste. Marseille, la catholique, Marseille, la fanatique, en tout cas pour un certain nombre de ses dirigeants, résiste à l'arrivée d'Henri IV, le roi de France, mais que la Ligue catholique n'aime pas parce que, même s'il s'est converti récemment, on lui prête le célèbre mot « Paris vaut bien une messe », il s'est converti au catholicisme et donc le soupçonne de s'y être converti uniquement pour prendre en main le royaume de France. On ne le saura d'ailleurs sans doute jamais, c'est probablement vrai. Pourquoi avez-vous choisi cette période, la fin du XVIe siècle, les guerres de religion, en tout cas après les guerres de religion, on est quand même à la fin, hein, on a déjà l'édit de Nantes.
Non, pas encore.
Ah, pas encore, c'est vrai.
On a deux ans de l'édit de Nantes.
On est dans la période où les choses vont s'apaiser, où Henri IV arrive, mais quand même très contesté, il y aura d'ailleurs beaucoup de complots contre lui, et Marseille, qui est quand même la deuxième ville de France, lui résiste. Pourquoi avez-vous choisi Henri IV, les guerres de religion et Marseille?
C'est un peu un triple choix. Le premier sur le choix de Marseille, c'est pour y avoir habité, j'ai découvert cette histoire-là, j'ai découvert son histoire, qui est truffée de périodes charnières comme ça dans la grande histoire de France. Et quand j'ai vu cette Marseille, donc cette république indépendante catholique qui résiste au roi, je me dis, mais ça fait un roman extraordinaire. Donc j'ai gardé ce décor-là. La deuxième, c'est quand même le. Je voulais un décor historique à mon récit. Et la dernière, ben, je voulais interroger à travers cette histoire notre propre siècle et notre propre actualité. J'évoque les guerres de religion. J'évoque aussi à travers ce roman un certain nombre de thématiques comme. L'acceptation de l'homosexualité, comme la mise en avant de personnages féminins très forts sur le roman. Voilà, je pense qu'à travers ce roman-là, j'ai voulu aussi qu'il y ait une écriture. Je n'ai pas cherché à faire une écriture d'époque, hein, c'est une écriture effectivement assez contemporaine, surtout sur l'extrait que vous avez choisi avec Silas. Je voulais que ça fasse vraiment tenter de faire un écho sur nos problèmes de société aujourd'hui, qui sont effectivement des interrogations sur la religion, la place des femmes dans la société. Voilà, ça me semble important.
Deuxième extrait, pour ne pas vous donner l'impression que le roman, et ce n'était pas une critique en soi, bien sûr, de Jean-Laurent Del Socorro, soit seulement un roman historique. C'est aussi un roman de fantaisie. On aurait pu dire que c'est un roman de fantaisie, mais c'est aussi un roman historique. Axel, j'ai à peine fini d'accompagner la vieille femme à sa chambre que deux nouveaux clients m'attendent déjà devant le comptoir. La couche de poussière et de boue qui recouvre leur manteau témoigne d'un voyage fastidieux. Nous voulons une chambre. Celui qui s'adresse à moi doit avoir la trentaine, la capuche enfoncée sur son crâne. Il cherche à dissimuler les taches couleur de sang de son cou, mais j'ai l'œil. C'est un sorcier rongé par l'art. Je n'ai croisé qu'un seul harbonnier dans toute ma carrière de mercenaire, mais je ne suis pas prêt de l'oublier. Les gants de l'homme doivent dissimuler des doigts noircis d'avoir trop manipulé l'art. Bon, je ne vois pas la petite boîte qu'il porte généralement autour du cou. Il la dissimule sans doute dans une poche de son pourpoint élimé. Elle ne doit pas être bien loin. On dit des pendeurs qu'ils sont trop dépendants à leur pierre pour s'en séparer. Il soutient son compagnon, plus jeune que lui. Des traits fins, presque aussi grands que moi, avec des mains sans cale tachées d'encre. Propre, il doit être plutôt mignon. Son disciple peut-être? En fait, ce n'est pas son disciple, c'est son compagnon.
Tout à fait. Tout à fait. Là, on est sur une double chose. Le roman, effectivement, évoque de la magie. Il évoque aussi de l'amour, et notamment à travers cette histoire entre les deux harbonniers qui ont quand même dans l'histoire le pouvoir en main. J'ai voulu une magie qui est à la fois très peu présente, donc vraiment qui est liée à des initiés, et très dangereuse pour ceux qui l'utilisent autant que pour ceux qui la subissent. On a pour faire une allégorie, on est sur un objet qui est proche de la radioactivité. Donc utiliser l'arbon, c'est se corrompre, c'est à chaque fois qu'on la sort de la boîte, vraiment, on corrompt les gens autour de soi. Et ce pourvoir-là, pour ces deux arbonniers qui sont avant tout des religieux, des soigneurs, qui veulent vivre paisiblement leur amour, c'est terrible dans cette France déchirée de la fin du XVIe.
Pourquoi avez-vous choisi justement de mêler des thèmes très contemporains, d'aborder, donc, on l'a vu, la guerre de religion, mais c'est une interrogation sur notre société aujourd'hui, où certains voudraient réactiver des guerres de religion. Et puis aussi une réflexion, en effet, sur trois couples de personnages, qui certains ont déjà rencontré l'amour, d'autres pas, d'autres vont passer à côté. C'est peut-être vos thèmes principaux, finalement, c'est les sujets qui vous donnent envie d'écrire, Jean-Laurent Del Socorro ?
Thèmes principaux, je ne sais pas, mais effectivement, c'est un élément moteur effectivement, pour mes personnages, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a le choix d'assumer ou pas son désir, son amour pour l'autre, ou tout simplement d'assumer une certaine conception du monde et de la vie. Les deux ne se rencontrent pas forcément sur les personnages, donc c'est compliqué pour eux. Mais je pense que cette dimension d'histoire d'amour, de romance même pour certains, elle est importante, parce que je pense qu'elle questionne, quelle que soit notre période de la vie, elle nous questionne, et je pense que c'est effectivement une thématique forte que j'utilise. Oui.
Troisième, quatrième roman. Là aussi, Le Château des Millions d'Années, un roman, je suis entré dedans, et pareil, j'ai pas pu m'arrêter, donc ça c'est toujours bon signe. C'est une chose que tout lecteur, et vous le savez, dans cette salle, éprouve. Quand on se dit, c'est vraiment tard, il faut que je me lève tôt demain, et allez, monsieur le bourreau, encore un chapitre. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec ce roman. Alors on va commencer directement. Un petit extrait. Alors là, on n'est pas du tout au XVIIe siècle. On est à une autre époque, mais vous allez voir, pas très sympathique non plus. Durant l'année qui s'était écoulée, Friedrich Schaxhauser avait montré d'inquiétants signes de lassitude aux yeux de sa hiérarchie. Andrea von der Goltz, parti en Irak, Himmler et Heydrich avaient d'abord pensé que le vague à l'âme de leur collaborateur s'expliquait par son retour à la vie de célibataire pour raison d'État. Toutefois, depuis l'été 1938, l'individualisme revendiqué de Sachshauser, sa propension un peu plus affirmée chaque jour à s'affranchir des règles de fonctionnement du SD Ausland, semblait indiquer que le très apprécié officier de renseignement glissait lentement vers la démission, voire, plus grave encore, vers une opposition ouverte à l'institution dans laquelle il avait fait carrière. La récente nomination de Sachshauser au grade supérieur, obtenue en dehors des grilles d'avancement, de même que la Mercedes de fonction, le chauffeur en livrée et l'assistante aux formes sculpturales, étaient autant d'artifices susceptibles dans l'esprit de ses chefs de le ramener à de meilleures dispositions envers le SD Ausland et les fonctions qu'il y assumait. L'éloignement lui avait jusque-là évité une confrontation avec ses confrères demeurés fidèles à l'idéologie nazie. Sachshauser avait sillonné l'Amérique du Sud, du Mexique au Chili, achevant son périple en Bolivie, où il avait recueilli de nombreuses informations censées préparer une mission archéologique de l'Annenerbe, j'y arriverai, vous me direz comment on le prononce.
L'Annenerbe,
très bien. Dirigée par Edmund Kiss. Depuis plusieurs années, l'officine scientifique de la SS, pompeusement baptisé « Héritage des ancêtres », recherchait des preuves de la prétendue supériorité de la race aryenne. Elle avait organisé des expéditions au Tibet, en Scandinavie ou bien encore au Moyen-Orient. Bien souvent, elle permettait à des espions allemands de se glisser parmi les savants pour opérer à l'étranger en toute discrétion. Alors, Stéphane Pribilski, la première question que je vais vous poser... Quand on lit cet extrait, on a bien compris qu'on était à la fin des années 30, avant la Seconde Guerre mondiale.
Tout à fait.
Cette officine qui va chercher des preuves de la race supérieure en Amérique latine, et puis ensuite on va le voir au Moyen-Orient, le reste, Himmler, tout ça, Heydrich, on connaît, on sait que c'est vrai, mais ça, vous l'avez inventé.
Non, tout a réellement existé. Les nazis étaient de purs adeptes de l'ésotérisme. Et Himmler a commencé par lui, s'est beaucoup intéressé au chant des sorcières scandinaves avant de devenir un criminel contre l'humanité. C'est cet aspect-là du nazisme que j'aborde dans ce roman et dans cette tétralogie. pour montrer un versant de l'époque qu'on connaît peu, qu'on connaît mal, à savoir la passion que, je dirais, l'Europe entière à la fin de la Première Guerre mondiale a eu pour justement les sciences occultes. Et c'est le point de départ, c'est justement une mission archéologique de Lannenherbe qui part donc en Irak chercher des traces de la prétendue supériorité de la race aryenne. Des études de la sorte ont été menées pas très loin d'ici, à Strasbourg, pendant la Seconde Guerre mondiale, par des savants nazis, par des savants venant de la SS, et mon personnage, Saxe Hauser, les archéologues qui l'accompagnent, toutes ces personnes, elles peuvent avoir existé intégralement. Voilà.
Là aussi, une question qu'on peut se poser, Stéphane Przybylski, quand on écrit un premier roman, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas qu'avant, vous avez écrit plusieurs ouvrages historiques, mais oui. Pas de romans, des ouvrages historiques, dont l'un a été couronné par le prix Stanislas, si je me
trompe. Tout à fait,
pas.
En 2005.
Voilà, mais... Là, vous passez au roman, c'est quand même toute autre affaire. Je précise que c'est une tétralogie, donc 4 volumes. Chacun raconte déjà une partie de l'histoire. Et que dès qu'on a lu la première, on a vraiment envie de connaître la suite. Et quand un éditeur se lance dans une tétralogie, en général, c'est qu'il est assez sûr de son auteur. Donc, c'est pour le dire pour ceux qui auraient peur de se lancer dans ce flot que nous propose Stéphane Przybylski. Quand vous choisissez un personnage qui est un SS... C'est quand même difficile de s'identifier pour le lecteur. Comment vous avez réussi à faire qu'on s'intéresse aux aventures de cet individu dans l'extrait que j'ai montré, peut-être en montrant qu'il est déjà en délicatesse avec sa hiérarchie?
Absolument. D'abord dans le nom, Saxe Hauser, c'est une référence en fait à Richard Wagner, pardon, et à un de ses opéras qui s'appelle Tannhäuser, dans lequel c'est un chevalier du Moyen-Âge en quête de rédemption. La rédemption, ça va être effectivement le cœur du problème, je dirais, psychologique de ce personnage. Après, sympathie ou pas, ça c'est au lecteur, je pense, de décider. Toujours est-il que, je dirais, il va être confronté, je dirais, à des phénomènes et à une problématique qui va, en grande partie, dépasser les enjeux de sa mission et qui va effectivement propulser le roman de l'histoire vers la science-fiction.
Jacques Baudou, après les fantômes de l'histoire, et quelle histoire, les vôtres sont assez différents. Petit extrait. Ils s'arrêtèrent sur le trottoir qui le bordait. C'est ici, dans ce jardin, que je l'ai vu à chaque fois, mais plus fugitivement que les autres, plus fantomatique. À peine eut-il fini sa phrase que la silhouette de la Dame Blanche se dessina. Dame Blanche, la formule prenait toute son infinie justesse. Blanche, la robe qu'elle portait, une robe d'un dessin simple, et d'une grande élégance. Blanche, la peau de ses bras nus, que le soleil estival n'avait pas bruni d'un soupçon. Blanc, son visage d'une pâleur presque livide, qui accentuait l'expression peinte sur ses traits. La silhouette s'estompa, les laissant pensifs sur le trottoir. La Dame Blanche lui avait toujours paru fort belle, mais la netteté de sa dernière vision confirmait l'impression jusqu'à l'éblouissement. Comme ils se tenaient debout, là, côte à côte, ils obligeaient les quelques passants à descendre sur la route pour poursuivre leur chemin. Ils s'en aperçut. Partons. Personne ne pourrait croire que nous admirons le jardin et ses superbes plantations. Il y eut un temps où celle-ci faisait, paraît-il, l'admiration de tout le village. Mais cette époque est depuis longtemps révolue. Allons nous asseoir sur un banc là-bas, nous irons déjeuner après, je vous emmènerai voir mon ami. Il désignait un angle de la place où quelques tilleuls ombragés, deux brandes de jardin. Lorsqu'ils se furent installés, elle se tourna vers lui. Vous aviez raison, elle est très belle. Mais c'est surtout l'expression de son visage qui m'a frappé. Elle est d'une grande tristesse. Une tristesse que je reconnais pour l'avoir déjà vue sur celui d'une tante qui venait de perdre un enfant. La Dame Blanche a perdu un être cher. Est-ce que Jacques Baudou, ce n'est pas le propre de tous les fantômes?
Oui, alors, j'ai pas voulu faire le malin du tout la première histoire. Il y a trois histoires enchevêtrées dans le roman. La première histoire, elle est bâtie comme une histoire de fantôme classique. Dans les histoires de fantômes anglo-saxons, on aperçoit un fantôme parce que ce spectre n'a pas réglé ses problèmes avec la Terre pour des problèmes de vengeance, d'oubli, et généralement, l'histoire de fantômes, ce sont souvent des nouvelles, se termine parce que le narrateur réussit à faire en sorte d'obéir aux vœux du fantôme et celui-ci peut regagner le paradis, l'enfer ou éventuellement le purgatoire. Donc l'histoire, elle est bâtie sur trois fantômes et le personnage féminin principal va être celui qui va réussir à faire en sorte que ces trois fantômes se rencontrent à nouveau. Voilà.
On voit que vous êtes, comme je l'ai dit au début, un grand connaisseur de l'histoire, des genres, fantasy, science-fiction, fantastique. Est-ce que quand on écrit un premier roman avec un tel bagage de connaissances, on revisite d'abord les thèmes classiques ou on a envie justement de s'en échapper, Jacques Baudou?
À la fois, c'est toujours très intéressant d'utiliser un thème classique, surtout dans le fantastique où finalement, quand on y réfléchit, Stephen King l'a écrit, il y a quatre types d'histoires avec un personnage central à chaque fois. Et donc, c'est intéressant d'utiliser les schémas classiques de ces histoires. Mais en même temps, il faut introduire d'autres choses. Il faut introduire peut-être une petite part de soi. Il faut essayer d'écrire un roman qui ne soit pas tout à fait du même type que ceux qu'on a lus. Évidemment, j'ai lu énormément comme critique et comme lecteur surtout, j'ai lu énormément de romans et de romans de types très différents. Et curieusement, je n'ai pas été paralysé par ça. Le fait d'avoir emmagasiné des tas de livres et de pouvoir faire que certaines références soient très compréhensibles par le lecteur. Enfin, les références à André Dautel et au Grand Maul ne font que très visiblement, c'est un livre qui se situe un petit peu dans le même univers. Mais ça n'a pas du tout été paralysant. Et au contraire, évidemment, ce qui serait formidable, mais ce que je suis incapable de faire, c'est d'écrire comme Raymond Queneau et de bousculer la langue française et de bousculer les schémas narratifs, mais il faut être un génie pour ça.
On se contentera d'avoir avec nous des grands romanciers, des romanciers de talent. Le fait de faire un premier roman, c'est parfois justement l'occasion de montrer tout de suite qu'on a envie de dire des choses et qu'on a peut-être appris aussi des autres, de ceux qu'on a lus et de ceux qu'on a chroniqués, de ceux qui ont fait aussi ce qui nous rend lecteurs et pour vous, en tout cas écrivains. C'est peut-être aussi comme ça qu'on rentre dans la carrière, comme on dit. Nabil Ouali, roman de fantaisie, encore un extrait pour donner une idée de votre voix, puisqu'évidemment, c'est celle de l'empereur, mais derrière, c'est évidemment celle du narrateur et de l'écrivain. Chapitre 4, le héros. Aux yeux de Wan, le maître d'armes, Frima était un véritable miracle. Sa carrure s'était rapidement affirmée, dévoilant un jeune homme solide, comme sculpté dans la roche. Il souriait peu, sans pourtant sembler triste. C'était comme s'il ignorait les usages auxiliaires au verbe et n'appréciait de parler que pour dire quelque chose. Sa beauté conservait un souvenir d'au-delà des montagnes, la pâle froideur d'un éclat matinal que ses yeux célanons sertissaient comme deux saphirs délavés. Toutefois, c'était la manière dont il apprenait à se battre qu'Owen admirait avant tout. Frima obéissait avec discipline et une déconcertante sérénité. En 6 ans, il ne s'était pas emporté une seule fois. Il n'avait jamais crié, ne s'était jamais plaint. Là où les fils des nobles de la cour renonçaient, épuisés ou las, il persévérait jusqu'au succès. Il ne transpirait pas, ne fatiguait jamais, et après des heures d'effort, sa respiration restait lente et constante. De fait, il apprit bien plus vite que tous les autres élèves que Owen avait eus. S'il n'avait pas de talent inné pour l'escrime, s'il ne s'était pas d'abord distingué, son endurance fit rapidement la différence, son rythme était simplement inhumain. L'empereur Brizard, Gouellette, Owen, l'Argéame et quelques domestiques étaient les seules personnes du palais à connaître son existence. Il y avait aussi le prince Éline, qui partageait avec lui ses séances d'entraînement, son éducation près du chancelier, certains de ses repas. Malgré le caractère tempéré de Frima, les deux garçons s'étaient plu, et comme l'avait prédit leur tuteur, se lièrent rapidement d'amitié. Éline était d'une beauté rare. Ses cheveux étaient blonds comme le miel, ses traits fins et ses pétillants yeux verts captaient toutes les attentions. Selon son entourage, il ressemblait parfaitement à sa mère, morte en couche. Le roi riait devant de telles paroles et assurait que s'il rasait sa barbe, il ne ferait aucun doute que c'est de lui dont on tiendrait la ressemblance. Frima et le prince étaient physiquement assez différents. Éline était plus grand et plus fragile, ses épaules bien plus délicates et son buste discret. Mais ils avaient également des caractères distincts. Le prince était de nature curieuse, impulsive, goûtait tous les plaisirs et s'en lassait très vite. C'était une jeune flamme, brûlant de parcourir le monde au risque de tout incendier. Voilà, en quelques dizaines de lignes, vous posez déjà vos personnages. C'est une machine de guerre, ce Frima, qu'on est en train de former, Nabil Ouali.
Ouais, exactement. En fait, Frima, c'est un peu, pour moi, un super-héros qu'on a mis dans un bouquin de fantasy. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon roman, je voulais pas d'une magie ou de quelque chose de fantastique qui soit trop présent. Je voulais que ce soit en arrière-plan, que ce soit insidieux. Et Frima, c'est un peu l'exception, en fait. C'est le personnage qui amène véritablement la dimension fantastique dans le roman. C'est une machine de guerre. Il a été formé pour ça. Mais le but, c'est de montrer que ça ne résume pas, à aucun moment. Au contrario d'Eline, qui, lui, n'est pas une machine de guerre, mais qu'on aimerait bien qu'il le soit. On aimerait bien que ce soit une machine de guerre, on aimerait bien que ce soit un futur empereur viril, très masculin, très belliqueux. Mais il s'acharne, malgré tout, à grandir et à mûrir vers l'élégance, vers une certaine délicatesse.
Jean-Laurent Del Socorro, royaume de vent et de colère. De colère, on comprend, mais de vent, pourquoi ? Marseille, un royaume de vent ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a quatre personnages dans le récit, plus on dirait 4,5. Vous avez lu un passage avec Silas qui n'apparaît que 4 fois dans le récit, mais voilà, qui est un peu la voix qui s'adresse directement au lecteur. Et puis un autre personnage, effectivement, que j'ai essayé d'incarner, c'est Marseille. Marseille qui a à la fois une âme, qui montre son tempérament, notamment par ces brusques accès de vent et ces changements de climat. Donc le Mistral qui frappe la ville, c'est aussi la colère de la ville.
Autre extrait de votre roman, Gabriel III, Paris, automne 1572. La Saint-Barthélemy s'est répandue sur tout le royaume de France, Toulouse, Lyon, Orléans, Bordeaux, Albi, Valence. Aucune ville n'est épargnée par les massacres, souvent approuvés par les gouverneurs militaires des cités. Je me suis réfugié chez Jeanne, ma cousine protestante. Son mari, le maréchal Armand de Gontaut-Biron, est un catholique modéré qui a accepté d'user de son influence pour me cacher à l'arsenal. Je me terre dans les granges d'artillerie, au milieu des canons et des barils de poudre. La semaine passe, le calme revient. Charles IX clame à l'Europe entière qu'il était victime d'un complot huguenot, ourdi par l'amiral de Coligny. Le pape se réjouit de savoir le roi de France toujours en vie et fait chanter un Te Deum pour remercier Dieu. Je voudrais mettre le feu à l'arsenal pour purifier définitivement Paris de ses menteurs et de ses hypocrites. L'amiral de Coligny a été assassiné par les Guises. Catherine de Médicis et son fils ont révoqué l'indit de Saint-Germain. Les protestants n'ont plus le droit d'exercer leur culte dans le royaume. Ils gardent leur liberté de conscience, mais leur conversion au catholicisme est fortement encouragée. Henri de Navarre lui-même, prisonnier à la cour de Charles IX, a abjuré la foi protestante. Je veux me convertir moi aussi, malgré les protestations de ma cousine. Elle peut rester fidèle à notre foi, car son mari la protège. Je n'oublie pas Saint-Germain. Une odeur de feu et de chair brûlée flottait encore dans l'air du faubourg à mon retour. J'ai ramené les dépouilles d'André et de Jacques. Nous les avons enterrées dans le caveau familial des Gontaut-Biron. Je n'ai jamais retrouvé le corps de Philippa. Les communautés protestantes disparaissent peu à peu dans tout le royaume, sous l'effort conjugué du roi et des gouverneurs, avec leur conversion spontanée. J'abjure ma foi à Notre-Dame de Paris, en même temps que de nombreux gentilshommes huguenots. Catherine de Médicis est présente en personne. J'étais un proche de l'amiral de Coligny. Ma conversion, après celle d'Henri de Navarre, est une victoire majeure pour le roi. Je suis agenouillé devant le cardinal de Bourbon. Les mots sortent d'eux-mêmes. C'est si facile de renoncer. Un de vos personnages principaux, Gabriel, a une lourde histoire. On l'a compris. Il a eu des lourdes pertes. On ne rentrera pas dans le détail. Il a été confronté à la violence. Est-ce que justement, votre roman n'est pas partagé entre l'amour que certains personnages éprouvent les uns pour les autres et de l'autre, la violence d'une société qui leur laisse bien peu de chances d'être heureux ?
Malheureusement, oui, il y a quand même de ça. C'est une double violence, c'est à la fois la violence du contexte qui s'abat sur les personnages et sur cette époque-là, qui effectivement les empêche de vivre... que ce soit leurs envies, leurs identités ou leurs confessions, qui crée un autre type de conflit, là du coup un conflit intérieur, c'est-à-dire cet esprit de revanche, cette colère qui naît de la frustration de ne pas pouvoir s'exprimer. Tous mes personnages, que ce soit de la colère physique, que ce soit oralement, que ce soit une colère affective, ils vont devoir leur faire face et soit l'exprimer, soit y renoncer avec des coups dans leur histoire qui peuvent être conséquents. On est sur des personnages qui sont colère au pluriel, c'est des personnages en colère dans un monde en colère.
Il y a beaucoup de personnages en colère dans un monde en colère aussi, Stéphane Rejewski. On va prendre un autre petit extrait pour situer un peu votre roman qui vraiment embrase un peu toute une période et aussi, puisqu'il y a un certain nombre de flashbacks, embrase aussi toute une géographie, pas imaginaire, mais bien réelle. Le 29 juin, l'apparition de la veille ayant semé le trouble chez les Bédouins, le professeur J.S. décide d'envoyer M. M. et Mlle J. en reconnaissance. Leur objectif est de remonter la vallée du Petit Zab pour reconnaître le secteur en amont de Dokkan, puis de revenir sans tarder à Kwalat El Janundi. Le 1er juillet, M. et Mlle J n'étant toujours pas de retour à Kwalat El Janundi, S part sur leur trace accompagné d'un guide bédouin. En début d'après-midi, S retrouve J seul et à pied dans la vallée du Petit Zab à environ 20 km en amont de la forteresse. Semblant désorienté et en proie à une grande confusion mentale, Mlle J perd connaissance. En fin d'après-midi, S retourne au bivouac en compagnie de l'assistante du professeur. Le 2 juillet, Mlle J décède au bivouac de Kwalat El Janundi. La mort de l'intéressé semble due à une insolation, aggravée de profondes brûlures sous tout le corps. Ses plaies sont toutefois apparues au moment du décès, sans que S ou le professeur présent au moment des faits puissent expliquer ce phénomène. S découvre dans les vêtements de la défunte un objet métallique, orné d'une écriture inconnue, que le professeur compare à des runes nordiques. Le savant affirme que l'objet corrobore la présence d'une tribu aryenne dans les montagnes du Kurdistan irakien. Le 3 juillet, la caravane reprend la route et remonte la vallée du Petit Zab au-delà de Dokkan. En fin de journée, la vallée s'élargit et nous atteignons un vaste cirque rocheux. L'expédition dresse alors son bivouac sur place. Dans la nuit, de nouvelles manifestations lumineuses sont observées dans le ciel, voire clichés photographiques numérotés 1 à 13. Trois sphères identiques à celles observées à Kwalat El Janundi planent un long moment au-dessus de nous. Pris de panique, les Bédouins ouvrent le feu sur les objets volants et provoquent leur fuite. La vitesse ascensionnelle des formes lumineuses semble, une fois encore, exceptionnelle. On a bien compris qu'il s'agissait d'un rapport de l'agent allemand à sa hiérarchie. On a bien répondu qu'il y avait une arme mystérieuse qui n'était visiblement pas le soleil, une insolation. Et ces objets lumineux à une incroyable vitesse ascensionnelle. Mais ce ne seraient pas des ovnis, dites-moi, Stéphane Przybylski?
Pourquoi pas? C'est un peu le grand écart de ce roman. C'est, d'un côté, on a donc un document administratif rédigé. Donc c'est un rapport d'un agent en retour de mission à ses chefs. Donc style administratif avec tout ce qui va autour, les abréviations et les différents acronymes. Et d'un autre côté, donc, on a des choses qui partent là carrément dans un autre registre avec des combustions humaines spontanées et des apparitions lumineuses qui pourraient effectivement faire penser à des petits hommes verts ou gris, puisque l'agent Mulder le disait très, très fréquemment, ils ne sont pas verts, ils sont gris, et ceci étant lié à l'atmosphère des différentes des environnements dans lesquels ils pourraient être amenés à évoluer. Donc effectivement, on a là un peu le double ancrage de mon travail. D'un côté, donc l'aspect historique, qui est là en fait pour asseoir des personnages, expliquer comment et pourquoi ils en sont arrivés à ce qu'ils sont et comment et pourquoi ils vont agir de la manière dont ils vont le faire. Et secondo, tout l'aspect donc science-fiction qui est là en fait justement pour les mettre à l'épreuve et pour les amener pour les uns à aller sur le chemin de la rédemption et pour les autres à se consumer dans leurs ambitions. Maintenant, ce sera au lecteur de découvrir qui ira sur la première voie et qui ira sur la seconde.
Vous avez vu au travers des petits extraits que je vous ai lus, des réponses de nos auteurs, qu'en choisissant ces quatre premiers romans, j'ai évidemment choisi des livres que je trouve tous intéressants, de qualité, qui devraient vous plaire à vous, lecteurs et lectrices, mais là aussi des livres extrêmement différents. Je crois que chacun l'aura bien senti. Avant de nous quitter, parce que d'autres vont parler de leurs ouvrages dans les minutes qui suivent, je voulais quand même vous poser en deux mots, vraiment, parce qu'il nous reste très peu de temps, une question simple. Quand vous choisissez une période, un univers, des héros, qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là pour votre premier roman du Troisième Reich et de ce mélange d'ingrédients, Stéphane Przybylski?
D'abord parce que c'est une période qui est riche en zones d'ombre et certains aspects ont été peu abordés, peu expliqués. Des personnages comme Rudolf Hess, dont le départ en Angleterre a encore récemment défrayé la chronique des historiens, puisqu'on ne sait toujours pas pourquoi Hess est allé en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale.
Je précise pour peut-être notre jeune public qui ne connaît pas nécessairement, Rudolf Hess était un des grands dirigeants du Troisième Reich, et en 1941, il est parti à bord d'un avion de chasse allemand. Voilà. Il a atterri en Grande-Bretagne, et on ne sait toujours pas clairement pourquoi, qu'est-ce qu'il était venu dire, qu'est-ce qu'il était venu négocier, décider seul. Bref, c'est un des mystères du Troisième Reich.
Et donc un point intéressant à noter par rapport à ça, c'est qu'un historien anglais, Martin Allen, donc un contemporain, le dernier ouvrage qu'il a fait sur le sujet, il s'est retrouvé en fait confronté à un problème, c'est que après l'apparition de son livre, on s'est aperçu que les documents sur lesquels il se basait étaient faux. Et donc, sa théorie, en fait, ce qu'il a échafaudé en tant qu'historien, elle est tombée complètement à l'eau. Il a été totalement décrédibilisé par rapport à cette histoire. Moi, la question que je pose simplement, et c'est un peu pour revenir sur les histoires de soucoupes volantes et de complots, c'est pourquoi encore 70 ans après les faits, certaines personnes croient bon de fabriquer des faux documents pour piéger un historien qui étudie donc la vie d'un homme, Rudolf Hess, que peu de gens encore aujourd'hui, auquel peu de gens s'intéressent aujourd'hui. Voilà, ce genre de mystère, ce genre de zone d'ombre de la Seconde Guerre mondiale, qui sont pour moi des mines d'or pour écrire des romans de science-fiction.
C'est dans le flou et dans l'ignorance,
et
en tout
gris,
cas, voilà, dans le gris qu'on se précipite.
Évidemment.
À la fin du quatrième volume, bien sûr.
Au troisième.
Les lecteurs à eux aussi d'être curieux et de démêler, le net nous le permet, le vrai du faux. Jacques Baudou, Les fantômes, ça vous a toujours travaillé?
Vous savez, le mot célèbre de Madame du Deffand, je ne crois pas aux fantômes, mais ils me font peur. Moi, je n'ai pas peur des fantômes, c'est des personnages qui font que j'ai beaucoup d'empathie pour eux. C'est-à-dire, ce sont généralement des humains qui se retrouvent dans un état de souffrance, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Dans le cas de mon roman, pour de bonnes raisons, c'est une famille séparée. Et j'avais envie d'écrire une histoire de fantôme, oui. Oui, oui.
Nabil Ouali, le choix de la fantaisie épique et hommage à Tolkien, on l'a dit. Qu'est-ce qui vous passionne dans ces histoires pleines de bruit de colère aussi?
Les possibilités Clairement, pour moi, la fantasy est un cadre qui n'est pas aussi restreint qu'on aimerait le croire. C'est quelque chose qui, enfin, c'est un genre qui permet, comment dire, d'avoir un univers qui est à la fois très très libre à créer. À partir du moment où on invente les règles d'un univers, on a à peu près la même chose en science-fiction, même si je pense que c'est un peu plus difficile parce qu'il faut le justifier. En fantasy, on est libre de faire absolument ce qu'on veut. Et ce qui est pratique, c'est que ça donne en fait un cadre où on peut poser des personnages qui auront des comportements qui, eux, peuvent refléter ou faire écho à des comportements qu'on est susceptible de rencontrer dans la réalité et à des thématiques qu'on est susceptible de rencontrer dans la réalité, comme la thématique du genre, par exemple, la thématique de la finitude, la peur de la mort, la question de est-ce qu'il faut absolument trouver un sens à tous les actes que nous faisons en tant qu'humains, est-ce que la morale est fondée sur l'homme, et ou plutôt sur les dieux ou le dieu. Tout ce genre de questions, en fait, ce sont des questions qui m'ont passionné, bon, d'abord dans mes études, parce que j'ai fait des études de philosophie, et ensuite qu'il a fallu que je retranscrive, dans mon roman. Et la fantasy, en fait, c'est ce qui me permettait de poser un cadre avec des personnages qui étaient très libres au moment de la création, en fait, tout simplement.
Jean-Laurent Del Socorro, pour conclure notre petite café littéraire, pourquoi vous avez choisi de mêler à ce point, et de façon réussie bien sûr, la fantasy et le roman historique?
En quelques mots, pour tout simplement un cadre historique, parce que l'histoire parfois est un réel et plus incroyable que la fantasy, et un récit fantasy pour avoir des libertés, pour interroger avec un peu de recul notre propre actualité et le propre monde qui nous entoure.
Bien voilà, quel sera le mot de conclusion de ce café littéraire, où j'espère qu'il vous a donné envie de découvrir les ouvrages de nos auteurs, en tout cas des auteurs qu'on a jugés utiles et nécessaires d'inviter aux Imaginales pour présenter leur premier roman, des romans en tout cas qui m'ont plu et ont plu à beaucoup de critiques du festival. Jean-Laurent Del Socorro, Royaume de vent et de colère, grâce à notre petit appareil, vous le voyez projeté là-bas. Nabil Wali, La Voix de l'Empereur, la série Le Corbeau, la Torche, c'est donc le premier volume de votre trilogie de fantasy. Jacques Baudou, La Lisière de Bohème, et non pas un de vos travaux critiques, mais parfois nos collaborateurs sont distraits. Donc La Lisière de Bohème, au mouton électrique, le précédent c'était Mnemos et Actu SF pour vous, Jean-Laurent. Le Château des Millions d'Années, Stéphane Pribilski, au Bélial. Voilà, quatre voix différentes, quatre histoires, vous avez bien senti à lire les extraits, complètement personnels et différents les uns des autres. Et en tout cas, quatre auteurs et quatre romans tout à fait intéressants et qu'on va continuer à suivre dans les années à venir. Merci à vous quatre. Merci.